Chers amis, nous continuons notre réflexion sur l'espérance, cette belle vertu théologale que le Seigneur nous a donnée lors de notre baptême. Encore faut-il accueillir ce don et le faire fructifier. Les vertus théologales grandissent en nous quand nous les pratiquons, bien sûr, mais quand nous les nourrissons aussi. La prière, les sacrements contribuent à nous fortifier dans la foi, l'espérance et la charité. D'ailleurs, je me faisais cette réflexion il y a quelques jours. On prend souvent des résolutions de nouvelle année, de carême, et souvent ces résolutions portent sur la foi ou la charité. Par exemple, pour vivifier notre foi, on va essayer de prier davantage, de vivre davantage des sacrements. Ou bien pour réchauffer notre charité, on va partager de son temps, de son argent, faire l'aumône, aller visiter une personne seule. Mais l'espérance est comme oubliée. On n'y fait pas attention, on ne se rend pas compte que l'espérance fait partie de la vie théologale, de notre relation à Dieu, d'où dépend la relation à nous-mêmes, au monde et aux autres. Et une certaine désespérance peut nous guetter sans que nous nous rendions compte de sa toxicité pour notre vie spirituelle. On ne pense même pas à remettre le péché contre l'espérance en confession. Les manques de charité, ça nous vient à l'esprit. Les péchés contre la foi aussi, notre éloignement de Dieu, le temps passé à des idoles aussi, etc. Mais les relents de désespérance, non, nous n'y pensons pas. Et pourtant, quel poison pour notre âme! C'est comme un brouillard qui vient ternir notre joie et notre paix intérieure. Charles Péguy, dans son beau livre « Le porche du mystère de la deuxième vertu », relevait d'une manière poétique qui lui est propre ce manque de considération que nous avons pour la vertu d'espérance. Si petite qu'elle semble insignifiante, alors que sans doute c'est elle qui est le moteur des deux autres, la foi et la charité. Ce passage est bien connu, mais je ne résiste pas à l'envie de vous en relire quelques extraits tellement c'est beau. Son œuvre commence par l'expression de l'étonnement de Dieu devant l'espérance de ses enfants. « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. » J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, dans toutes mes créatures, surtout dans les enfants, et dans tout ce qui est arrivé à mon fils, dans sa naissance et dans sa vie et dans sa mort, et dans le saint sacrifice de la messe, et dans la vie éternelle qui ne finira point, qui vaincra toute mort. J'éclate tellement dans ma création, que pour ne pas me voir vraiment, il faudrait que ces pauvres gens fussent aveugles. La charité, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonnée moi-même. Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. Depuis cette fois qu'elle coula comme un fleuve de sang du flanc percé de mon fils. Quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure et invincible et immortelle et impossible à éteindre. Comme cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle. Une flamme tremblotante à traverser l'épaisseur des mondes, une flamme vacillante à traverser l'épaisseur des temps, une flamme anxieuse à traverser l'épaisseur des nuits, une flamme impossible à atteindre, impossible à éteindre au souffle de la mort. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance immortelle. Après avoir exprimé si poétiquement l'émerveillement de Dieu devant l'espérance, Péguy montre ensuite le lien qui unit les trois vertus théologales, ces trois vertus que Dieu voit comme ses créatures, ses filles. « La foi est une épouse fidèle, dit-il. La charité est une mère ardente, pleine de cœur. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme, Janvier. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes, cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversera les mondes révolus. Et Charles Péguy souligne que des trois vertus théologales, l'espérance est peut-être la plus agréable à Dieu, parce qu'elle est la plus difficile aussi. En effet, la foi, dit-il, va de soi. La foi marche toute seule. Pour croire, il n'y a qu'à se laisser aller, il n'y a qu'à regarder. La charité va de soi. La charité marche toute seule. Pour aimer son prochain, il n'y a qu'à se laisser aller, il n'y a qu'à regarder tant de détresse. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, il faut être bien heureux. Il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. C'est d'espérer qui est difficile. Et le facile et la pente est de désespérer. Et c'est la grande tentation. Voyez, c'est très juste ce qu'il nous dit là. Devant notre monde si déchiré, devant nos familles éclatées, devant les souffrances, les incertitudes, les désillusions, les peurs de ce qui va advenir aussi, la tentation du désespoir ou du fatalisme, qui est une forme de désespoir, ou de la mauvaise tristesse qui accable et qui paralyse. Oui, cette tentation du désespoir est aisée et se présente vite à nous, et nous la laissons entrer en nous, nicher en nous, comme si elle était nous, comme si elle ne relevait pas du combat spirituel. Nous lui ouvrons la porte de nos cœurs sans même nous en rendre compte, et nous ne la combattons pas, et elle devient nôtre, elle devient nous. Elle colonise nos cœurs, nos pensées, comme une gangrène psychologique et spirituelle qui vient tout recouvrir d'une sorte de brouillard. Et nous n'arrivons plus vraiment à lever les yeux pour voir le grand soleil de nos vies, l'astre d'en haut, Jésus, la lumière du monde, l'éternel vainqueur de toute forme de mal. Nous devrions nous armer du bouclier de la foi, comme le dit saint Paul, pour combattre cette anti-vertu du désespoir. Quand bien même ce ne serait qu'un désespoir larvé qui ne dit pas son nom, qui ne se présente pas avec cette force redoutable qui peut conduire à la dépression ou au suicide. Il y a en effet des désespoirs subtils qui rongent notre être spirituel, comme des métastases, sans faire de bruit. Or, ces désespoirs subtils, nous ne les combattrons que par la confiance en Dieu, la certitude de sa victoire absolue sur le mal, ce qui suppose de connaître notre Dieu. Nous ne les combattrons que par l'espérance. Cette espérance qui ne saurait décevoir car elle est fondée sur la promesse de Dieu. Et Dieu est fidèle à ses promesses de salut. Soyons donc vigilants. Et soyons aussi vigilants pour nous-mêmes face à cette boîte à fabrique du désespoir que sont les médias anxiogènes ou les mauvaises nouvelles surabondantes des médias sociaux. Prenons soin de notre âme, ne la maltraitons pas. Comme la rose du Petit Prince, elle a besoin d'être protégée pour rester en état de grâce, pour rester dans la paix. Cela ne veut pas dire se couper de tout et faire l'autruche. Mais nous devons viser à équilibrer le mal que nous percevons et qui pourrait nous désespérer s'il n'y avait que lui, par le bien qui existe, par le bien que Dieu nous promet et par le bien que nous pouvons faire. Il s'agit donc de faire provision dans la besace de notre âme, de la parole de Dieu, de sa présence sacramentelle, de la prière, de la confiance et de l'espérance dans l'action du Seigneur, dans sa providence. C'est notre antidote au désespoir. Le pire n'est jamais sûr, n'est-ce pas ? Dieu a en réserve pour nous, pour ce monde blessé, des projets de paix et non de malheur, comme il nous le dit par son prophète Jérémie. Reprenons la méditation si profondément juste de Péguy sur la petite fille Espérance si fragile et pourtant immortelle. La petite Espérance, dit-il, s'avance entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, et on ne prend seulement pas garde à elle. Sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, entre ces deux sœurs, la petite Espérance s'avance, et le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs. La première et la dernière qui vont au plus pressé, au temps présent. Et le peuple chrétien ne voit quasiment pas celle qui est au milieu, la petite, celle qui va encore à l'école et qui marche perdue dans les jupes de ses deux grandes sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes sœurs qui traînent la petite par la main pour lui faire faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne voient pas, au contraire, que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs et que sans elle, la petite, les deux grandes ne seraient rien que deux femmes déjà âgées, fripée par la vie. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout, car la foi voit ce qui est dans le temps et dans l'éternité. La charité aime ce qui est dans le temps et dans l'éternité, Dieu et le prochain, comme la foi voit Dieu et la création. Mais l'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera, dans le futur du temps et de l'éternité. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, traîné, pendu au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu, entre ses deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur la route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher tout le monde. Et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Je trouve cela assez extraordinaire ce que nous dit Charles Péguy. L'espérance, cette petite fille de rien du tout, mais qui entraîne le monde à sa suite, car c'est pour elle que le monde agit, car le monde n'agit que pour les enfants, pour prendre soin des enfants, pour donner le meilleur aux enfants. Ce ne sont point les enfants qui travaillent, nous dit Péguy, mais on ne travaille jamais que pour les enfants. Ce n'est point l'enfant qui va au champ, qui laboure et qui sème, et qui moissonne, et qui vendange, et qui taille la vigne, et qui abat les arbres, et qui scie le bois pour l'hiver, pour chauffer la maison l'hiver. Mais est-ce que le père aurait du cœur à travailler s'il n'y avait pas ses enfants, si ça n'était pas pour ses enfants ? Péguy suggère poétiquement la grande puissance de l'espérance qui semble pourtant si fragile, si petite, en la liant à l'enfance. Et de fait, et à contrario, aujourd'hui, notre monde occidentalisé n'accueille plus la vie. On ne fait plus d'enfants. Et par là, on manifeste la désespérance qui habite nos cœurs, comme une gangrène mortifère. La désespérance est toujours abortive. On a rejeté Dieu victorieux du mal, on a perdu la lumière divine, et on ne voit plus pour l'avenir qu'un gouffre plein d'obscurité. Et alors on se met à penser qu'il est criminel de mettre des enfants au monde aujourd'hui, et que c'est un bien de demander l'euthanasie pour hâter la mort qui s'en vient. Oui, un monde qui rejette le Christ ressuscité du tombeau accueille de fait le nihilisme, la religion du néant et de la mort, et ne peut que sombrer dans un désespoir larvé. Si la foi est congédiée, l'espérance disparaît et la charité meurt. Le nihilisme est le masque moderne de Satan, qui est menteur et homicide depuis le commencement, comme nous l'a dit Jésus. Le nihilisme est le filet lancé par le diable sur les nations pour prendre un maximum d'âmes et les retirer du chemin du salut et de la béatitude. Et son arme fatale est de distiller le venin de la désespérance en nos cœurs, et comme il y arrive bien. Ne croyons pas pouvoir le combattre par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Il est bien trop puissant, subtil et séducteur dans ses mensonges pour nous prendre dans ses filets. Il nous faut recourir à Dieu, à son secours pour nous libérer de ses pièges. Notre âme, comme un oiseau, s'est échappée du filet de l'oiseleur, dit le psalmiste. Le filet s'est rompu et nous avons échappé, car notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qui donc nous délivrera du filet de Satan, du nihilisme et de la désespérance ? Eh bien, le nom du Seigneur. Autrement dit, si nous mettons notre espérance dans le Seigneur, alors la gangrène du nihilisme n'aura pas prise sur nous. Le Seigneur nous en délivrera. Et comment ? Eh bien, en nous aidant à tourner notre regard vers les réalités d'en haut, vers l'espérance qui nous est promise en Christ, lui qui est pour nous l'espérance de la gloire, comme le nomme saint Paul. Celui qui a Dieu dans son cœur ne peut pas avoir en même temps dans son cœur les squatteurs du nihilisme et de la désespérance. Ce n'est pas possible. Il s'agit donc pour nous de lever le regard et de voir ce qui nous est promis et qui s'en vient. Et alors la joie inondera notre cœur et la paix aussi. Pour terminer cette émission, je voudrais vous raconter l'histoire d'un beau vocable sous lequel la Vierge Marie a été invoquée non sans fruit. Notre-Dame de la Sainte Espérance. C'est une bien belle histoire qui nous confirme non seulement l'importance de cette vertu de l'espérance, mais la puissance de cette appellation concernant Marie. Nous sommes au XIXe siècle. Ernest André naît le 17 octobre 1826 à Bagneux-la-Fosse, dans l'Aube. À 9 ans, l'enfant est atteint d'une fièvre typhoïde qui le conduit aux portes de la mort. Après 40 jours, presque sans connaissance, il guérit comme par miracle. Peu de temps après, il manifeste le désir d'être prêtre. En 1839, il entre au petit séminaire. À la fin de sa première année, il reçoit le sacrement de la confirmation qui le marque profondément. Plus tard, dans ses enseignements, il soulignera l'importance de l'Esprit-Saint dans la vie du chrétien. Ordonné prêtre le 22 décembre 1849, il est nommé à 23 ans curé de Ménil-Saint-Loup, paroisse de 350 âmes. Avisant un villageois, il lui demande le chemin de l'église. Et dans la discussion, le paroissien lui fait le portrait de sa nouvelle paroisse. « Voyez-vous, monsieur, ici, nous ne sommes pas très dévots. Oh, pour la messe, nous n'y manquons pas. Mais nous aimons bien, après la messe, aller boire la petite goutte. » Dans ce village pauvre, la pratique religieuse est de fait habituelle, mais le devoir de la communion pascale n'est guère rempli que par les femmes. L'abbé André, plein de foi et de zèle, ne saurait se contenter du minimum. Il désire un peuple fervent, nourri des sacrements, de la parole de Dieu, un peuple qui prie. Le jeune curé se met donc à la tâche. Il visite les paroissiens, organise le catéchisme, prépare les premières communions. Il est bien accepté des paroissiens du fait de sa jovialité, de son rire franc qui réchauffe les cœurs. Cependant, l'abbé se rend vite compte que la moisson ne suit pas forcément les semailles. Peu de communiants persévèrent dans la vie sacramentelle. La conquête des jeunes au Christ reste fragile. En juin 1858, l'abbé entreprend un pèlerinage à Rome. Or, en chemin, alors qu'il prie son chapelet, il est saisi intérieurement par une pensée qui l'emplit de joie et d'émotion. Marie est la mère de la Sainte Espérance. C'est en effet ce que suggère l'expression biblique que l'on retrouve dans le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 24, verset 18. Bien sûr, dans ce livre, c'est la sagesse qui dit « Je suis la mère du bel amour et de la crainte, de la connaissance et de la Sainte Espérance ». Mais la tradition a souvent attribué ce chapitre à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Ainsi peut-on dire que oui, Marie est la Mère de la Sainte Espérance. L'abbé reçoit intérieurement la certitude qu'il lui faudra, une fois parvenu à Rome, demander au pape de donner le nom de Notre-Dame de la Sainte Espérance à la statue de la Vierge de son église et d'instituer une fête en son honneur. L'accord du pape, se dit-il, sera le signe que cette inspiration lui est donnée du ciel. Et contre toute attente, il obtient sans délai de Pie IX la permission de célébrer une fête liturgique en l'honneur de Notre-Dame de la Sainte Espérance, le 4e dimanche d'octobre. Cette fête sera ensuite assortie d'une indulgence plénière. Ce qui est touchant, c'est que le rôle de Pie IX dans l'instauration du culte de la Vierge, sous ce nouveau vocable, n'a rien de fortuit. Il est même primordial. En effet, c'est bien lui qui personnellement a donné ce vocable à la statue de la Vierge de Ménil-Saint-Loup, car lui-même avait une grande dévotion envers la Sainte Vierge depuis sa tendre enfance. Le jour même de sa naissance et de son baptême, le 13 mai 1792, Jean-Marie Mastaille avait été consacré par ses parents à une madone appelée Notre-Dame d'Espérance. La divine providence était donc bien à l'œuvre ici pour que la Vierge de Ménil-Saint-Loup puisse être honorée sous ce beau vocable biblique de Notre-Dame de la Sainte Espérance. À son retour de Rome, l'abbé attend le jour solennel de l'Assomption pour annoncer la grande nouvelle. Dans un sermon mémorable, il laisse éclater sa joie et sa confiance filiale en Marie par une série d'invocations dont une touche plus que les autres ses paroissiens. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. La piété des fidèles va s'emparer de cette petite prière. Ils vont la redire en priant et en pleurant, au point que se forgera l'expression « pleurer la petite prière ». Voyez, ce qui est tellement ajusté dans cette prière, c'est que ce n'est pas le curé qui demande à ses paroissiens de se convertir, mais c'est une demande adressée à Marie par chacun, afin que Marie obtienne, elle, de son Fils, leur conversion. Souvent, on voit la conversion comme une œuvre que nous devrions accomplir à la force du poignet, et on se décourage vite de ne pas y arriver, et on abandonne. C'est oublier que la conversion est une grâce venant d'abord de Dieu, et donc qu'il faut demander cette grâce dans la prière. Et ce qui est très beau, c'est que la première conversion est d'abord celle de l'abbé, qui s'en trouve transformé, devenant un ouvrier éclairé et efficace. Lui-même dira « Avant la Sainte Espérance, j'allais au hasard, je ne savais pas. Avec elle, j'ai été fixé, j'ai vu, j'ai compris. » Et à l'école de Marie, le curé va devenir un vrai pasteur et un incomparable formateur de chrétiens. À partir de ce jour, l'immense puissance de conversion de la Sainte Vierge, qui est appelée la toute-puissance suppliante par les pères de l'Église, se manifeste de façon éclatante. Le dimanche 22 octobre 1852, la première fête de Notre-Dame de la Sainte Espérance est célébrée très simplement, mais avec une grande allégresse. On n'avait pas l'habitude à cette époque de communier pour un simple dimanche. Le curé insiste. Les femmes se rendent sans trop de difficultés, mais les jeunes gens qu'il a groupés autour de lui auront-ils le courage de s'approcher publiquement des sacrements ? La plupart viennent se confesser à une heure tardive. Le respect humain les tient encore. Mais le lendemain, il communie à la grande messe devant tout le monde. C'est la première victoire de Notre-Dame de la Sainte Espérance. Sur Ménil-le-Loup souffle alors un vent nouveau, le vent de l'Esprit-Saint. La grâce du baptême enfouie dans les cœurs réapparaît dans toute sa fraîcheur et toute sa force. En fait, l'abbé a bien conscience qu'il est là comme le coopérateur de la Sainte Vierge qui veut ranimer le christianisme dans les cœurs. Plus tard, il dira « L'œuvre de Notre-Dame de la Sainte Espérance à Ménil-Saint-Loup, c'est simplement le rétablissement du christianisme et ceci parmi les hommes baptisés. » Ici comme ailleurs, tout à peu près était envahi par ce froid et bas naturalisme qui ne permet pas à l'homme d'élever ses pensées au-dessus de ce qu'il sent. Ici comme ailleurs, la raison humaine l'emportait sur la raison divine, c'est-à-dire sur la foi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ était une sublime inconnue. Toutes les vertus chrétiennes étaient méconnues et remplacées par cette vertu également facile et universelle que le monde appelle l'honnêteté. Notre-Dame de la Sainte Espérance arriva, et dès le premier moment, toutes les âmes comprirent qu'un grand changement allait devenir indispensable. Les pratiques extérieures du culte allaient être convaincues d'insuffisance. Les motifs intérieurs des actions allaient subir des modifications essentielles. L'amour de Dieu allait cesser de consister en une formule. L'Esprit du Seigneur allait souffler sur des ossements desséchés et faire surgir un peuple nouveau. C'est donc la vie de la grâce qui se remet à couler dans la paroisse. Dans les années 1852-1862, il ne se passe pas de fête pascale, de mois de mai, de fête de Notre-Dame de la Sainte Espérance, sans qu'il n'y ait de véritable conversion qui ramène des âmes à Dieu en les séparant radicalement de la vie mondaine. La fréquentation des sacrements augmente. On voit des hommes se joindre aux femmes pour la prière du chapelet. Dans la foulée, une confrérie pour la récitation de la petite prière est érigée. Les associés, par série de 12, s'engagent à dire chacun à une heure fixe un « Je vous salue Marie » encadré avant et après par l'invocation « Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous ». Le développement de la confrérie est rapide. En décembre 1855, on compte 4000 inscrits. Cette prière perpétuelle se répand rapidement en France puis à l'étranger. La confrérie devient une archiconfrérie et en 1877, l'association compte 100 000 associés. L'abbé organise des conférences les dimanches après-midi pour former les chrétiens, éclairer leur foi. La journée du dimanche se termine par une prière du soir dont le but avoué est de mettre fin au bal et combattre l'influence du cabaret. Cependant, toute cette œuvre a eu des contradicteurs. Certains dans le village ne veulent pas de Notre-Dame d'Espérance. De jeunes libertins créent une deuxième paroisse dans une écurie transformée en salle de danse, où ils parodient les célébrations du culte. Notre-Dame se venge alors à sa manière. Un dimanche du mois de Marie de 1854, tandis que ces jeunes s'en vont à une partie de plaisir, le meneur s'arrête net et décide de rentrer. Les railleries de ses compagnons n'ont pas de prise sur lui. Il dira par la suite « C'était comme si la médaille de la Sainte Vierge m'était tombée sur la tête. » Il se met alors à dire le chapelet, puis au mois d'octobre se confesse. Enfin, il se fait moine à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. C'est là l'un des Fioretti parmi tant d'autres de Notre-Dame de la Sainte-Espérance. En ce lieu, elle s'y révèle comme la toute-puissante convertisseuse, la reine des cœurs, la mère et la source vive de l'amour. Depuis, ce lieu est resté un lieu de grâce et de pèlerinage. Un monastère a même été construit dans le village et le père André y est entré et y est devenu le père Emmanuel. Ce monastère bénédictin existe toujours sous le nom de Monastère de Notre-Dame de la Sainte-Espérance. Ne craignons donc pas aujourd'hui encore de recourir filialement à Notre-Dame, car elle est toujours disposée à accorder la grâce de la conversion. Elle n'attend que notre petite prière pour faire de nous des apôtres de l'espérance qui ne déçoit pas. Oui, Marie, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous.
Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route j'ai confiance en toi.
Chers amis, comme il nous est facile d'avoir le cœur plein d'espérance quand tout va bien. Mais garder l'espérance quand les nuages noirs s'amoncellent sur nos vies ou sur le monde, voilà qui est plus difficile. Et pourtant, c'est bien là que se vérifie la qualité de notre espérance. Est-elle comme une rose aussitôt effeuillée au moindre souffle? Ou bien est-elle suffisamment enracinée en nous comme un vieux chêne solide pour résister à l'épreuve, à la bourrasque, à la nuit de ce monde? En fait, ce n'est pas tant la solidité du chêne qu'il faut voir, mais la profondeur de ses racines. Autrement dit, notre espérance est-elle une espérance somme toute assez superficielle qui s'envole à la première tribulation, ou bien peut-elle résister car elle est très profondément enracinée en nos âmes? Ou pour le dire autrement, est-elle un espoir seulement humain ou bien une espérance théologale? Il est certain que les espoirs humains ne tiendront pas devant les tribulations des temps à venir. Mais l'espérance théologale qui a Dieu pour objet et qui s'appuie sur les promesses de Dieu, sur sa grâce qui ne nous fera pas défaut, alors cette espérance-là pourra tenir et nous donner de traverser la mer Rouge à pied sec pour nous mener jusque dans la terre promise, la terre des vivants, la patrie céleste. Cela ne veut pas dire que l'espérance théologale soit facile, non. Quand l'épreuve est là, l'espérance aussi est mise à l'épreuve. Mais comme elle est une vertu donnée par Dieu, elle sera soutenue aussi par sa grâce, ce qui nous permettra de continuer à espérer même au milieu des afflictions. À espérer contre toute espérance, précisément. Le grand écrivain Georges Bernanos le disait d'une manière très belle. L'espérance, disait-il, est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges, où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Ainsi, ce que nous laisse entendre Bernanos, c'est que l'espérance, tout comme la foi, doit passer par le feu pour que les scories des illusions et des vains mensonges des lendemains qui chantent tombent. Il faut bien souvent que l'espérance passe par ce feu du purgatoire qu'est le désespoir, pour ressusciter, déployer toute sa force et devenir cette espérance invincible qui faisait aller les martyrs au supplice en chantant les louanges de Dieu. Les carmélites de Compiègne, emmenés sur leur charrette pour être guillotinés durant la terreur, le 17 juillet 1794, ont entonné le Salve Regina à la sortie de leur prison, le Te Deum en arrivant près de la guillotine, et le Veni Creator à l'échafaud, alors que chacune montait sereine aux noces de l'agneau, manifestant ainsi leur indéfectible espérance de la rencontre avec l'Époux souverain, le Christ victorieux du mal. Elles avançaient vers la guillotine comme si elles voyaient l'invisible. Non pas la guillotine, mais la porte du ciel et le Seigneur Jésus qui les attendait. Merveilleuse espérance théologale qui donne de voir Dieu au milieu des horreurs de ce monde, au cœur des pires injustices, et qui proclame à la face des peuples la gloire de Dieu. Alors que d'habitude sur la place du trône où s'élevait la guillotine, se pressait chaque jour une foule moqueuse et insultante pour s'abreuver du sang de ce grand massacre institutionnalisé. Ce jour-là, le 17 juillet, quand les carmélites sont arrivées sereines et chantant les louanges de Dieu, la foule a fait silence. Sans doute, la foule a-t-elle été surprise par le caractère complètement incongru de ce chant du Te Deum qui s'élevait au-dessus de ces rivières de sang. Sans doute aussi, certains à les voir et à les entendre psalmodier se sont souvenus, non sans un pincement au cœur, d'un passé révolu qui savait encore respecter les choses saintes. D'autres pouvaient être aussi impressionnés par l'acceptation sereine avec laquelle les sœurs accueillaient l'injustice et la mort, car quelque chose d'ineffable émanait visiblement de leur inébranlable espérance. On ne sentait ni regret ni tragédie. Leur façon d'être semblait démontrer à tous que la mort sous la guillotine était pour elles le couronnement de leur vie. N'avaient-elles pas chanté juste la nuit précédente qu'était arrivé leur jour de gloire? Dans ce témoignage de foi et d'espérance, les carmélites de Compiègne ont sans doute bouleversé bien des âmes, leur rappelant que les idéologies mortifères peuvent bien encore crucifier le Christ en ses membres, mais que toujours il ressuscite et que, elles, ces idéologies, sont condamnées à périr après avoir fait périr. Là où les saints passent, Dieu passe, et la foi et l'espérance peuvent renaître. Aujourd'hui, il semble parfois que si nous ne sommes pas sous le régime de la terreur, nous sommes cependant dans le vacillement d'un monde où tout ce qui était évident pour tous ne l'est plus, où ce qui était perçu hier comme une folie devient aujourd'hui la nouvelle norme. Moment où les certitudes les plus ancrées vacillent et où les sécurités d'antan menacent de s'écrouler. On se gargarise désormais de la déconstruction du créé. Mais ce qui reste présent au cœur des gens de bon sens et pour lesquels la loi naturelle a encore du sens, c'est une tristesse face à cette tyrannie de la folie collective, face aussi à l'idolâtrie des promesses prométhéennes des nouvelles technologies, du transhumanisme de la transidentité, de l'intelligence artificielle. On nous promet un monde nouveau, un homme nouveau, qui ne serait plus tout à fait homme d'ailleurs, tant il serait bidouillé, faussement augmenté grâce à des artefacts biotechnologiques. Mais il semblerait que dans ce monde nouveau, froid et impersonnel, tel que Andrew Niccol a pu le mettre en scène dans son film dystopique « Bienvenue à Gattaca », quelque chose d'essentiel ait été sacrifié. La foi en un Dieu personnel, et puis l'espérance en un avenir plus humain, et puis l'amour qui donne sens à tout, et puis la liberté sans laquelle les plus belles utopies se transforment en société de contrôle. Bernanos avait bien pressenti ce monde de soft tyrannie qui se met en place et le dénonçait avec vigueur. Le grand malheur de cette société moderne, disait-il, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine y suppléer par la technique. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. C'est bien vu, n'est-ce pas? Le pouvoir des technocrates ne peut donner naissance qu'à un monde de lois, de judiciarisation du quotidien, de sécurité et de contrôle, bref, un monde qui broie l'humain et où l'amour et l'espérance sont congédiés subtilement, doucement, sans même que nous nous en rendions bien compte. Et alors, comme il est difficile dans un tel univers carcéral, même si la prison est aux dimensions du monde et que c'est une prison à ciel ouvert, comme il est difficile de garder allumée la petite flamme de l'espérance. Nous pourrions facilement être tentés de désespérer de l'humanité, du monde et même de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner le témoignage si édifiant d'un homme qui a vécu dans un univers concentrationnaire, celui du Vietnam communiste au XXe siècle. Et le témoignage de sa vie nous montrera que l'espérance peut toujours nous accompagner comme une mère aimante au cœur même des tribulations les plus extrêmes. Je veux donc vous parler du cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, parti rejoindre la Maison du Père en 2002 et qui a été déclaré vénérable par le pape François en 2017. François-Xavier naît le 17 avril 1928 près de Hue, l'ancienne capitale impériale du Vietnam. La famille de son père est composée de commerçants et d'entrepreneurs, celle de sa mère de hauts mandarins. Mais les deux se distinguent depuis des générations par une forte foi catholique et un grand amour de la patrie. Il y a eu beaucoup de martyrs parmi leurs ancêtres, et cela soutient la foi de ces deux familles. Le jeune François-Xavier a beaucoup d'admiration pour sa lignée maternelle qui compte d'importants dignitaires au service de l'empereur. Il a d'ailleurs un oncle qui deviendra en 1955 le premier président de la République du Vietnam. Thuan, dont le nom signifie « volonté de Dieu », demande à l'âge de 13 ans à poursuivre ses études au petit séminaire où un de ses oncles, devenu prêtre puis évêque, avait été élève. Sa vie spirituelle se fortifie. Il prie le rosaire. Chaque matin, il assiste à la messe et communie. En 1945, le Front de libération communiste arrive. L'aîné des oncles de Thuan, ennemi déclaré des communistes, est arrêté puis exécuté avec son fils quelques semaines plus tard comme traître à son pays. Thuan est soulevé de fureur. Le pardon lui semble impossible et cela ne fera que redoubler lorsque quelques années plus tard, en 1963-64, des meurtres politiques et des exécutions sommaires achèveront d'anéantir sa famille. 4 oncles assassinés, 2 autres en exil. Il lui faudra du temps dans la contemplation de Jésus outragé et crucifié pour arriver à pardonner. Thuan est ordonné prêtre le 11 juin 1953. 3 mois plus tard, on lui décèle une tuberculose avancée. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Ses parents restent à son chevet des heures à prier le rosaire. Les médecins décident finalement l'ablation d'un poumon. Mais le matin de l'opération, alors qu'on lui fait une dernière radio avant l'anesthésie générale, stupéfaction, il n'y a plus aucune trace de tuberculose. « C'est un miracle !» s'exclame joyeusement Thuan. 4 jours après, en parfaite santé, il est de retour dans sa paroisse. Au même moment, la radio annonce la chute de Dien Bien Phu. Les accords de Genève sont signés, le pays est divisé en deux. Les communistes sont maîtres du Nord. En octobre 1955, la République est proclamée au Sud avec Diem, oncle de Thouane, pour premier président. À cette époque, Thouane est envoyé à Rome par son évêque. Il y restera 4 ans comme étudiant au Collège de la Propagation de la Foi. Pendant les vacances, il voyage dans toute l'Europe et se rend en 1957 à Lourdes. Il dira plus tard « Me trouvant dans la grotte, j'ai médité sur les paroles de Marie à Sainte Bernadette. Je ne te promets pas joie et consolation sur cette terre, mais des épreuves et des souffrances. J'ai eu l'impression que ces paroles m'étaient également adressées. Et ce n'est pas sans crainte que j'ai accepté ce message. Au nom de votre Fils et en votre nom, ô Marie, j'accepte les épreuves et la souffrance. Une fois retourné au Vietnam, je suis devenu professeur, puis recteur du séminaire, vicaire général et enfin évêque de Nha Trang. On pouvait dire que mon ministère était couronné de succès. Je retournais à Lourdes chaque année et je me demandais souvent « Peut-être que les paroles adressées à Bernadette ne me concernent pas. » Mais arrive l'année 1975, l'arrestation le jour de la fête de l'Assomption, puis la prison, l'isolement. Et je comprends que la Vierge avait voulu me préparer dès 1957. Que s'est-il donc passé pour en arriver là? Après que Thouane ait été consacré évêque en 1967, il devient prévisible que les communistes vont finir par contrôler le sud Vietnam. Monseigneur Thouane décide alors d'intensifier la formation des paroissiens laïcs et la pastorale des vocations. En l'espace de 8 années, il multiplie par 3 le nombre des séminaristes. En avril 1975, il procède à la dernière ordination de la grande promotion de séminaristes, peu avant la prise de contrôle de son diocèse par les communistes. Le diocèse peut donc affronter les restrictions à venir. Il fait tout pour venir au secours des milliers de personnes qui prennent la direction du Sud. Il leur parachute des tonnes de médicaments et de vivres. Il s'attire ainsi l'hostilité des communistes. Il le sait, mais il fait son devoir d'évêque. Le 23 avril, il apprend que Paul VI l'a nommé coadjuteur, c'est-à-dire auxiliaire avec droit de succession, de l'archevêque de Saïgon. Monseigneur Thouane se rend donc vers la capitale du Sud. Seulement, les communistes ne peuvent évidemment pas accepter qu'un membre de la famille de l'ancien président assassiné devienne archevêque de Saïgon. Il est donc convoqué le 15 août 1975 à l'ancien palais présidentiel. Il est alors arrêté immédiatement et conduit en prison. Il racontera plus tard « Je suis sorti de chez moi, revêtu de ma soutane et un chapelet en poche. Durant le voyage qui me mène à la prison, je me rends compte que je suis en train de tout perdre. Il ne me reste plus qu'à me confier à la providence de Dieu. Tout en étant plongé dans une grande anxiété, je ressens une grande joie. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel. Dès cet instant, il est interdit de m'appeler Monseigneur ou Père. Je suis Monsieur Van Thouane. Je ne peux plus porter aucun signe de ma dignité. Sans préavis, il m'est demandé, même de la part de Dieu, un retour à l'essentiel. Il lui est donc interdit de communiquer avec qui que ce soit, et bientôt, l'impossibilité d'agir pour Dieu et pour les âmes fait beaucoup souffrir son cœur d'évêque. « J'étais obsédé, dira-t-il, jour et nuit par cette pensée. Mon peuple que j'aime tant, troupeau sans pasteur. Comment puis-je entrer en contact avec mon peuple ?» Justement au moment où ils ont le plus besoin de leur pasteur. Une nuit me vint une lumière. François, c'est tout simple. Fais comme saint Paul, lorsqu'il était en prison. Il écrivait des lettres aux différentes communautés. Le matin suivant, j'ai fait un signe à un petit garçon de 7 ans qui revenait de la messe de 5 heures, encore dans l'obscurité, et je lui ai demandé « Dis à ta maman d'acheter pour moi de vieux blocs de calendrier ». Tard le soir, tandis qu'il faisait sombre à nouveau, le garçon m'a apporté les calendriers. Et toutes les nuits, d'octobre à novembre 1975, j'ai écrit depuis la prison un message à mon peuple. Chaque matin, le petit garçon venait chercher les feuilles pour les emporter chez lui, et faire recopier le message par ses frères et sœurs. Voilà comment a été écrit le livre « Chemin de l'espérance », publié rapidement en une multitude de langues. Les autorités l'apprennent et, furieuses, transfèrent Mgr Tuan au camp de Phu Khan le 19 mars 1976, en la fête de Saint-Joseph. On l'enferme dans une minuscule cellule sans fenêtre, pleine de moisissures et de champignons à cause de l'humidité. Il y reste 9 mois sans jamais en sortir, sans rencontrer aucun de ses co-détenus. L'isolement produit son œuvre, le désespoir le guette. De nombreux sentiments confus tournent dans ma tête, dit-il. Tristesse, peur, tension nerveuse. Mon cœur est déchiré par l'éloignement de mon peuple. Je ne réussissais pas à dormir. J'étais tourmentée à l'idée de laisser aller à la ruine tant d'œuvres que j'avais engagées pour Dieu. Et mon être se révoltait. Une nuit, une voix m'a dit au profond de mon cœur : Pourquoi te tourmenter ainsi ? Tu dois faire la différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tout ce que tu as entrepris et que tu désires continuer à faire est excellent. Ce sont les œuvres de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Si Dieu veut que tu abandonnes tout cela, fais-le tout de suite et mets ta confiance en lui. Tu as choisi Dieu seul et non pas ses œuvres. Cette lumière m'a apporté une paix nouvelle qui m'a aidé à dépasser des moments physiquement à la limite du supportable. Tuan découvre que l'espérance est cette flamme qui, même vacillante, éclaire notre chemin dans les ténèbres les plus épaisses, comme il le dira plus tard. Voyez, le Seigneur est en train de le purifier des espoirs temporels liés aux événements du monde et de sa vie, pour l'amener à entrer dans la seule véritable espérance, celle qui ne saurait décevoir, l'espérance en Dieu seul, qui va avec l'abandon à sa divine volonté. Le regard de Tuan sur la prison en est renouvelé. Fixant des yeux le Christ en croix, il réalise que c'est au moment où il était le plus faible, méprisé et abandonné de tous les hommes, comme lui-même, qu'il accomplit la plus grande œuvre de sa vie, la rédemption du monde. Lui, Tuan, ne peut plus agir pour Dieu, mais aucune géole, aucun géolier ne peut l'empêcher d'aimer Dieu. Le 29 novembre 1976, il est emmené dans un camp de travail au Nord-Vietnam. Là, il arrive à se faire envoyer par un chrétien un peu de vin, présenté comme « remède contre le mal d'estomac » et quelques petits morceaux de pain dissimulés dans une lampe de poche. Il commence à célébrer la messe en cachette, dans ses mains. C'est une immense joie pour lui. Il peut donner la communion aux catholiques détenus avec lui. Par sa bonté et sa douceur, il se fait même des complices parmi ses gardiens. « Dans l'obscurité de la foi, écrira-t-il, dans le service, dans l'humiliation, la lumière de l'espérance a changé ma vision des choses. Désormais, ce navire, cette prison, était ma plus belle cathédrale. Et ces prisonniers, sans aucune exception, étaient le peuple de Dieu confié à mon soin pastoral. Ma prison était la divine providence, elle était la volonté de Dieu. L'enjeu n'est plus que d'aimer à chaque instant, chaque jour. » Cependant, Tuan est transféré le 5 février 1977 dans une prison plus étroite à Hanoï, puis le 13 mai 1978 dans le presbytère délabré d'un village dont les paroissiens ne pratiquent plus et sont même anti-catholiques. Mgr Tuan est autorisé à célébrer la messe, mais tout seul. Il ne doit parler à personne. Cependant, une rencontre fortuite lui révèle que certains villageois sont ses parents par alliance. Ceux-ci comprennent alors qu'on leur a menti et changent d'attitude à son égard. Dans ce village, comme dans presque tous les villages, les communistes avaient mis en place des espions au sein même des paroisses. Or, il y avait un couple de ces espions que Mgr Tuan, à force de bonté et de douceur, avait fini par retourner. Ils se sont confessés à lui. L'exemple étant contagieux, d'autres espions des villages voisins viendront aussi demander l'absolution. Il devient manifeste pour les autorités locales que leur réseau a été désactivé. Mgr Tuan est alors emmené au loin dans une résidence des agents de la sécurité publique. L'évêque ne doit pas sortir de sa chambre, Là aussi, il ne doit parler à personne ni regarder par la fenêtre. Ce sera son régime pendant les 6 années qui suivront. Mais il s'est abandonné à Dieu et la solitude ne lui fait plus peur. Il sait, comme il le dira plus tard, qu'il n'est point de ténèbres si épaisses que la lumière de l'espérance ne puisse percer. Toine choisit d'aimer. À force de persévérante gentillesse, il parvient à communiquer avec ses gardiens. « Quand je fus mis en quartier d'isolement, écrira-t-il plus tard, je fus confié à 5 gardiens. À tour de rôle, 2 d'entre eux étaient toujours avec moi. Leur chef leur avait dit « Nous vous remplacerons tous les 15 jours par un autre groupe, pour que vous ne soyez pas contaminés par ce dangereux évêque. » Mais par la suite, ils ont décidé « Nous ne vous changerons plus. Autrement, cet évêque contaminera tous les gardiens. » À force de paroles bienveillantes, Toine a fait d'eux ses amis. À un gardien, Toine demande même de pouvoir tailler un morceau de bois en signe de croix. C'était évidemment extrêmement dangereux, et pour Toine et pour le gardien. Mais celui-ci accepte, et cette petite croix en bois, il va la garder cachée dans un savon. Dans une autre prison, il demande aussi à un gardien devenu son ami du fil électrique. Celui-ci, épouvanté, pense qu'il veut se suicider. Mais Toine lui répond « Les prêtres catholiques ne se suicident pas ». Et il lui explique que c'est pour fabriquer une chaînette pour porter sa croix. Le gardien accepte de lui fournir le fil et 2 tenailles. Lors de la retraite au Vatican que le pape Jean-Paul II lui demandera de prêcher pour l'an 2000, il dira à ses frères de l'épiscopat « Cette croix et cette chaînette, je les porte sur moi chaque jour. » Il en avait fait sa croix pectorale, le bois ayant été serti dans un encadrement métallique. Je les porte sur moi, non pas parce que ce sont des souvenirs de la prison, mais parce qu'ils manifestent une de mes convictions profondes. Seul l'amour chrétien, et non les armes, les menaces ou les médias, peut changer les cœurs. C'est l'amour qui prépare les chemins à l'annonce de l'Évangile. L'amour triomphe de tout. Et cet amour qui habitait le cœur de Toine venait se greffer sur l'espérance qu'il avait en tout homme. Je le cite. La réconciliation n'est possible que lorsque l'on ose espérer, lorsque l'on croit que chaque être humain, quelle que soit sa condition, peut contribuer à un avenir commun empreint de justice et de paix. Monseigneur Van Toine va rester en prison jusqu'en 1988. Il avait fait cette prière à Marie. « Mère, si tu penses que je ne peux plus être utile à ton Église, accorde-moi la grâce de consumer ma vie en prison. » Autrement, accorde-moi de sortir de prison le jour d'une de tes fêtes. » Or, le 21 novembre de cette année, fête de la présentation de Marie au Temple, le ministre de l'Intérieur le fait appeler et lui demande s'il a un désir. Monseigneur Van Toine répond « Oui, monsieur le ministre, je veux être libéré. » « Quand ?» lui répond le ministre. « Aujourd'hui, » répond Toine. Et contre toute attente, le ministre accède au désir de Toine. Marie l'a donc libéré le jour d'une de ses fêtes. Il est libre, mais il ne pourra pas exercer son ministère au Vietnam. Il est forcé de partir. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver à Rome, vice-président du Conseil pontifical Justice et Paix, chargé de répandre dans le monde entier la doctrine sociale de l'Église. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II le choisit pour les exercices spirituels de la Curie romaine. À l'issue de cette retraite où Mgr Van Toine, devenu cardinal, a évoqué son expérience de l'isolement dans les prisons vietnamiennes, Jean-Paul II déclare « Le Christ crucifié et ressuscité est notre unique et véritable espérance. Fort de son aide, ses disciples deviennent aussi hommes et femmes d'espérance. Non pas d'espoir fugace et à brève échéance qui laisse fatigué et déçu le cœur de l'homme, mais de la véritable espérance, don de Dieu, qui, soutenue d'en haut, tend à atteindre le bien suprême et est sûr de le rejoindre. Le monde d'aujourd'hui a un urgent besoin de cette espérance. » Le cardinal Toine s'éteint le 16 septembre 2002, le regard fixé sur le crucifix qu'il avait devant lui, priant en silence et accomplissant son ultime sacrifice. « Son espérance était pleine d'immortalité », dira Jean-Paul II. Le pape Benoît XVI lui a aussi rendu hommage en disant « Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. durant 13 années de prison, dans une situation de désespoir apparemment totale. L'écoute de Dieu, le fait de pouvoir lui parler, sont devenus pour l'inoubliable cardinal Van Thuan une force croissante d'espérance, qui, après sa libération, lui a permis de devenir pour les hommes dans le monde entier un témoin de l'espérance, de la grande espérance qui ne passe pas, même dans les nuits de la solitude. Eh bien, vénérable cardinal Van Thuan, prie pour nous, pour que même au cœur de la nuit, nous gardions allumée la petite lumière de l'espérance.